Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité africaine. À la une ce matin, le Niger, où cela fait maintenant un an que l'immunité de l'ex-président Mohamed Bazoum a été levée. Mais les procédures judiciaires initiées par les militaires qui l'ont renversé à Niamey, ces procédures n'avancent pas vraiment. Précision et explication dans un instant. Dans ce journal également, vous entendrez le président du Bénin, Patrice Talon, confirmer une nouvelle fois qu'il n'a pas l'intention de briguer un troisième mandat. On parlera aussi de la Chine qui compte supprimer les droits de douane pour la majorité des pays africains et de la Commission européenne qui place la Côte d'Ivoire et 5 autres pays africains sur sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent. C'était donc il y a tout juste un an au Niger, le 14 juin, la Cour d'État, la plus haute juridiction du pays, levait l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, 11 mois après le coup d'État qu'il avait renversé. Une décision qui alors ouvrait la voie à un procès devant un tribunal militaire, les nouvelles autorités de Niamey l'accusant de trahison, de complot, d'attentat à la sécurité de l'État et d'apologie du terrorisme. Mais depuis, le dossier n'a pas bougé, aucune procédure n'a été engagé contre l'ancien chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui est toujours détenu avec son épouse dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey. On fait le point avec Magali Lagrange.
Mohamed Bazoum n'a été entendu qu'une seule fois depuis la levée de son immunité par des enquêteurs de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire. C'était en août dernier. Depuis, selon des sources proches du dossier, plus rien. Le chef de l'État renversé n'a pas été présenté à un juge. Il n'a pas été inculpé à ce jour. Il est donc en état d'arrestation illégale, en dehors de toute procédure judiciaire, résume Maître Mamadou Ismaïla Konaté, l'avocat, ancien ministre malien de la Justice, qui appelle régulièrement à la libération de Mohamed Bazoum, juge la situation dramatique et révoltante. Car Mohamed Bazoum reste détenu avec son épouse dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey depuis le coup d'État il y a près de 2 ans. Selon un de leurs proches, le couple occupe ce qui était la chambre d'un de leurs enfants, qui se compose aussi d'un petit salon et d'une salle de bain. Leur porte est gardée et ils ne peuvent prendre l'air sur la terrasse que sur demande. Selon cette même source, Mohamed Bazoum garde le moral. Il continue de recevoir régulièrement la visite de son médecin. Le président renversé n'a jamais signé sa démission.
Le Niger, par ailleurs, où le tribunal militaire de Niamey a inculpé hier 3 journalistes de la radio Sahara FM d'Agadez. Après une garde à vue de 40 jours, ils sont poursuivis pour atteinte au moral des troupes. Après avoir en fait relayé un article qui évoquait des informations non confirmées sur une prétendue rupture de la coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie. 2 de ces journalistes sont maintenus en détention. Le 3e, qui est une femme, il a été remis en liberté provisoire avec interdiction de quitter Niamey. Il l'a déjà dit, mais il le répète, au Bénin, alors que l'élection présidentielle approche l'an prochain, Patrice Talon, le chef de l'État, assure une nouvelle fois qu'il n'a pas l'intention de briguer un troisième mandat. Prise de parole hier devant les maires et les préfets béninois réunis au palais présidentiel.
Nos railleries actuelles sont faites pour nous exacter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Je voudrais que mes propos soient perçus dans leur sincérité, dans leur solennité. Vous dites combien je crois au destin du Bénin. Je crois à notre capacité de développement, à notre capacité de création de richesses. Et je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux, mes propres yeux. Que Dieu bénisse le Bénin, vous bénisse. Merci beaucoup.
Patrice Talon, le président du Bénin. L'heure des réactions et de l'analyse ce matin après l'annonce de la Chine cette semaine. Pékin à contre-pied des États-Unis qui annonce son intention de supprimer les droits de douane pour l'essentiel des pays africains. Tous, en fait, sauf l'Eswatini, dernier pays du continent qui entretient des relations diplomatiques avec Taïwan. La Chine qui aujourd'hui importe d'Afrique principalement des matières premières comme les minerais et le pétrole. Quel impact pour cette décision ? Alexis Bédu.
Les modalités de ces suppressions de droits de douane pour les pays africains n'ont pas été précisées, mais Benoît Chervalier, directeur de la chaire Business et Industrie en Afrique à l'ESSEC, prévient « Si les exemptions ne concernent que les matières brutes, ça n'aura que peu d'effet et ça n'incitera pas les pays africains à accélérer sur la transformation locale. »
C'est une chose d'exonérer par exemple de la matière brute, c'en est une autre de savoir si le même type d'exemption couvrirait des matières transformées en Afrique qui seraient exportées en Chine. Et là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce cas de figure.
Sur les minerais et le pétrole, la Chine dispose de nombreux fournisseurs ailleurs qu'en Afrique. Elle devrait garder la main sur les quantités importées depuis le continent. Sur les produits agricoles, c'est encore la Chine qui tient les manettes, explique Thierry Perrault, chercheur et spécialiste de la présence chinoise en Afrique.
Les échanges agricoles ne sont pas du fait d'une activité promue par les pays africains, mais d'une activité organisé par exemple par la province du Hunan. Donc en fait, in fine, ça risque davantage de profiter à la province du Hunan qui utilise ses échanges commerciaux avec l'Afrique pour renflouer ses finances locales que bénéficier aux producteurs africains.
Les échanges des pays africains avec Pékin ne représentent que 3% du commerce chinois.
Alexis Bédu. Dans l'actualité ce matin également, ces affrontements hier dans le nord du Mali. Un convoi de l'armée malienne et de ses alliés russes a été pris pour cible par les rebelles indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad dans la région de Kidal. FLA qui revendique, je cite, une grande victoire, alors que l'armée malienne assure elle avoir pris le dessus sur les assaillants après avoir dans un premier temps démenti toute attaque. Le Mali, que le GAFI, organisme européen pour la lutte contre le blanchiment d'argent, vient de retirer de sa liste grise. Et c'est en suivant les recommandations de cet organisme que la Commission européenne, elle, vient de placer 6 pays africains sur sa liste des pays à haut risque. Il y a l'Angola, le Kenya, mais aussi la Côte d'Ivoire, à Abidjan, Bintadiagne.
À travers cette mise à jour, la Commission européenne s'aligne sur l'évaluation du GAFI, le groupe d'action financière qui, en octobre dernier, plaçait la Côte d'Ivoire sur sa liste grise des pays jugés à risque concernant les blanchiments de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi les lacunes relevées par le GAFI, le manque de transparence sur les enquêtes et les transactions bancaires. Concrètement, les opérateurs financiers européens devront désormais adopter une vigilance accrue dans les transactions impliquant la Côte d'Ivoire. Cela n'a pas de conséquences sur l'aide au développement ni sur l'aide humanitaire, précise une source proche du dossier. Cette liste de la Commission européenne doit encore être validée par le Parlement et le Conseil européen qui ont chacun un mois pour rendre un avis. La Côte d'Ivoire a de son côté mis en place un comité pour répondre aux exigences du GAFI. Abidjan doit démontrer, je cite, une augmentation soutenue du nombre d'enquêtes et de poursuites en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il serait utile de limiter le plafond des transactions financières en liquide et de former les personnes exposées à ces situations, à savoir les notaires, les agents immobiliers et les avocats, préconise enfin le docteur Christophe Kwame, spécialiste de la gouvernance des politiques publiques. Bintadiane Abidjan, RFI.
L'Union africaine exhorte toutes les parties au conflit à la retenue. Réaction de l'UA hier matin après les premières frappes israéliennes sur des installations militaires et nucléaires de l'Iran. Des frappes et la riposte de Téhéran qui se sont poursuivies dans la journée d'hier et ce matin. Dernière information, Israël qui dit avoir ciblé des systèmes de défense iraniens dans la région de Téhéran, tandis que l'Iran dit lui avoir abattu des drones israéliens en mission d'espionnage. Enfin, ce samedi 14 juin, c'est un anniversaire. Il y a 30 ans, jour pour jour, disparaissait le grand écrivain congolais Sonny Laboutansi, lauréat par exemple du Grand Prix littéraire de l'Afrique noire pour son roman L'Antépeuple. Sonny Laboutansi qui avait accordé des interviews à plusieurs reprises à RFI, comme en 1981 pour l'émission Mille Soleils. Il évoquait au micro de Marie Scondé son rapport à la poésie.
J'ai commencé par écrire de la poésie, n'est-ce pas? On aurait peut-être l'impression que la poésie est le genre le plus facile, mais je ne crois pas. Je crois que c'est le genre le plus difficile. On y reste longtemps, on se cherche, on essaie d'interroger. Je crois que c'est par là qu'on devrait commencer. Qu'en principe, on ne devrait pas être romancier ou dramaturge sans avoir écrit des vers. Bon, à un certain moment, je me rends compte que l'écriture, c'est vrai que ça sert à soi-même, à ses quelques amis, mais que ça peut servir également aux gens qui sont alentour. Alors j'ai voulu parler à plus de monde, s'il faut parler de cette manière-là. Et je me suis donc mis à écrire des pièces de théâtre, n'est-ce pas? Et puis, il faut dire une chose, c'est une forme de solitude l'écriture en Afrique, parce que la civilisation africaine n'est pas une civilisation d'écriture, à mon avis. C'est une civilisation de parole. Plus j'écris, plus je me sens seul. Et ça m'oblige peut-être de chercher à gauche, à droite. Et c'est pourquoi je suis arrivé au théâtre.
L'écrivain congolais Sonny Laboutansi et son héritage et sa mémoire, on en a parlé aussi ce matin avec notre invité, le professeur de littérature Xavier Granger. Entretien à réécouter sur RFI.fr.